Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, les grandes gueules du sport, votre émission en direct le samedi, le dimanche de 9h à midi. On est très heureux évidemment de vous retrouver pour un nouveau week-end, les GG du sport. L'une des rares émissions à continuer tout l'été, les GG seront là pour vous accompagner en juillet et en août. Pour ma part, c'est mon dernier week-end à la tête de cette émission après 5 saisons magnifiques avec vous les GG, avec vous les auditeurs. Il est temps pour moi de vivre une autre aventure, de vous tromper en somme, de vous larguer. C'est comme ça qu'il faut le recevoir. Mais on se retrouvera à la rentrée sur RMC. Bref, les vrais au revoir, ce sera demain tranquillement. Au sommaire aujourd'hui, pour cette émission, on a beaucoup de choses à vous raconter. C'est le grand départ aujourd'hui du Tour de France 2025. Tadej Pogacar est le grandissime favori à sa propre succession. Le Tour est-il joué d'avance? On se posera la question et les GG ne sont pas d'accord. À 10h, le bras de fer des GG, quart de finale de la Coupe du Monde des clubs. Cet après-midi, c'est à 18h. PSG Bayern Munich, l'enjeu est-il grand? Ce sera donc notre bras de fer. Et là encore, les GG ne sont pas d'accord. Et puis 11h, retour à Lille. Nous parlerons des Français sur ce Tour de France. Aucun n'a réellement un objectif de classement général. Faut-il se satisfaire d'un exploit sans lendemain? Oui ou non? Et là encore, les GG ne sont pas d'accord. C'est vraiment très très bien produit. Mais je vais quand même vous les présenter, ces GG. Les grandes gueules du sport ce matin, une grande gueule qui, comme le Tour de France, il fait son chiffre au mois de juillet. Simon Dutin, salut Simon.
Salut JC, salut tout le monde.
Ah, on va te voir tout le temps, enfin t'entendre tout le temps.
Ouais, je sais pas comment je dois le prendre, mais bon,
encore une fois,
merci pour ce cynisme, cher Jean-Christophe. Voilà, oui, j'entre en scène lorsque les autres partent en vacances. Ça fait 10 ans que ça dure, mais bon, en effet, je suis ravi d'être avec toi pour cette dernière, en tout cas, cette avant-dernière.
Avant-dernière.
Et demain la dernière.
Oh oui.
Quelle folie.
Mon Simon, je suis très heureux aussi de te retrouver. Et puis, quand tu es là, ça veut dire que
Tonton Cécile n'est pas là.
Voilà.
Et oui.
Donc, je suis très heureux. On le retrouvera tout de même dans cette émission, lui qui est en direct de Lille, pour le Tour de France. Une grande gueule qui, comme le Tour de France, ça sent bon les cigales, ça sent bon le soleil, ça sent bon les petits villages et ça sent bon la défaite. Pascal Duprat, salut Pascal.
Bonjour JC, merci pour les derniers mots habituels. Merci mon Jean-Christophe. Tu sais que tu vas pas me manquer hein, pour ça.
Oui,
franchement, hein, parce que t'as forcé le trait. Oui, j'ai perdu, oui, j'ai perdu. Oui, j'ai perdu.
Mais pas beaucoup. Pas beaucoup.
Comment allez-vous,
Pascal,
les copains?
Bah, non, écoute, pas beaucoup. On va très salut, bien Pascal. Et on est toujours évidemment extrêmement heureux. Tu le sais à quel point je suis heureux,
oui,
de te retrouver dans cette émission.
On ne perd jamais, on apprend toujours.
J'ai plein de vannes. Qu'est-ce que t'as appris, mon Pascal? Une grande gueule qui, comme le Tour de France, il en a traversé des villes pourries. Hein. Il y habite même. Fred Weiss, salut Fred.
Salut. Oui, mais je suis pas seul ici. À cette table, je ne suis pas seul à habiter une ville pourrie.
Ah, oui,
ou en tout cas d'être d'origine d'une ville pourrie.
Tu penses à qui?
Je pense à plusieurs personnes.
Tu penses à Bourg-en-Bresse?
David n'est pas là.
Le Bressan.
Par exemple.
Hein, par
exemple.
L'équipe de basket.
Hein?
Oui, ils ont une équipe de basket, mais à Limoges aussi.
Encore plus grand. Surtout à Limoges quand même.
À Limoges.
Tiens, ben, je vais vous le présenter parce que je pense que c'est ma meilleure présentation. De toute façon, j'ai jamais trouvé mieux avec lui. Une grande gueule qui, comme le Tour de France, n'a jamais gagné Roland-Garros. Julien Benito, salut Julien.
T'as raviré longtemps celle-ci. Il en est content à chaque fois.
Elle m'a fait combien de temps cette vanne?
Je sais pas, mais ce, je m'en lasse pas.
Bah,
elle
oui.
m'a manqué, hein. Tu sais quoi?
Je t'appellerai de temps en temps.
De temps en temps,
t'as toujours pas gagné Roland.
Ah, c'est
et
plaisir.
Tu me diras, si mon pote, je en l'ai double. Gagné en double. Ça va, Julien?
Ça va, JC.
Ouais.
Très bien, je suis content d'être là pour ce dernier week-end avec toi.
Bah oui.
Et encore un ou deux week-ends avant les vacances. Donc, non.
Mais oui, bon, enfin, c'est ce que je disais. On est là tout l'été.
Bien sûr.
Les GG, le samedi, le dimanche de 9h à midi. Donc vraiment, restez fidèles à notre émission. Et on est très heureux de vous retrouver pour participer à cette émission. C'est très simple, avec toutes les GG. Vous composez le 32-16. J'ai un très beau cadeau à vous faire gagner ce matin. C'est pas un petit klaxon, évidemment. Dans les grandes gueules du sport, on fête le départ du Tour de France. RMC avec Mondial Relais, partenaire majeur du Tour de France, vous propose de vivre une expérience incroyable avec la personne de votre choix. Alors, s'il y a bien une étape qu'il faut aller voir, c'est celle-ci. La 7e étape du Tour de France, vendredi 11 juillet, Saint-Malo, Mur de Bretagne. Arrivée évidemment mythique, arrivée fantastique. Si vous voulez suivre une expérience unique grâce à Mondial Relais, eh bien, vous envoyez tout de suite Tour au 732-16. Tour au 732-16. Tour, T-O-U-R, hein, pas comme Jean-Louis Tour, évidemment. Tour au 732-16, les amis. Ah, ça va être un week-end de folie. Je sors tous les gags. Ah, vraiment, je sors tout.
Roue libre.
Les amis, il y a un direct en course. C'est assez inhabituel à 9h13. Mais il y a le 15 de France qui joue. Maintenant, ça vient de débuter face à la Nouvelle-Zélande. C'est le premier test match suivi par Julien Richard. Salut Julien.
Salut tout le monde. Salut, effectivement, Julien. Et pourquoi à 9h13, il y a un match de rugby? Parce qu'il se passe en Nouvelle-Zélande, j'y sais. Et tu connais le décalage horaire. C'est en soirée. On est à Dunedin, on est au sud du pays. Alors le stade, c'est un toit à couvert, hein, mais on voit de la fumée sortir des bouches des joueurs. On est en hiver en Nouvelle-Zélande. C'est pas les mêmes conditions qu'ici en France. Les Français, 0-0, 5 minutes de jeu, qui ont eu droit au Kappa Opongo, bien guerrier. La version guerrière du Haka. Pourquoi? Parce que les Néo-Zélandais, ils restent quand même sur 3 défaites consécutives contre les Bleus. Et puis il y a cette histoire, vous le savez, qui a été très mal prise en Nouvelle-Zélande, d'envoyer une équipe, on va pas dire bis, mais sans les joueurs premium. Il y a 8 joueurs qui pourraient connaître leur première connaître leur première sélection avec les Bleus sur ce match-là. Manque de respect, on a qualifié aussi les Bleus de touristes. On va voir ce que ça donne. Ça a donné en tout cas de la motivation aux Bleus de Fabien Galthié, qui vont bénéficier, tiens, d'une pénalité pour ouvrir le score sur la pelouse donc de Dunedin, avec justement un premier capé, Joris Segond, l'ouvreur, qui sur la ligne des 50 mètres va peut-être tenter cette pénalité dans quelques instants.
C'est un premier capé ou il s'appelle Segond? Je comprends plus rien.
C'est un premier capé qui s'appelle Segond. Et demain, le prochain match, peut-être qu'il y aura 2 sélections.
Et donc on pourra dire, ce sera
Segond,
par
sa sélection Segond, pour Segond.
Une deuxième pour Segond. Second, c'est quand il n'y a pas de troisième.
Ouais, exactement. Merci pour. C'est très important.
Heureusement qu'il y a des gens.
Lettrés.
Ouais, érudit, je
veux dire. Surtout, c'est la meilleure intervention de la journée, à mon avis.
Érudit, c'est un peu compliqué comme mot, et on n'est que le matin, on est sur RMC, c'est une émission de sport. On va rester avec Julien Richard, parce que quand même, les Bleus peuvent mener dans cette rencontre. Julien, on reste avec toi juste pour cette pénalité.
Les Bleus qui sont en blanc, mais à la radio, on ne voit pas.
La concentration de Joris Segond pour ces Bleus en blanc, effectivement, elle est vraiment sur la ligne médiane, hein, cette pénalité. Le gros coup de pompe de l'ancien Parisien du Bayonnais, qui va passer entre les poteaux, l'ouverture du score pour l'équipe de France. Et ben voilà. Sensation à Dunedin, 7 minutes de jeu, 3-0 pour les Bleus.
Merci Julien Richard, on va suivre évidemment cette rencontre avec toi tout au long de la matinée. Allez, on débute avec notre premier débat. José Arthur a dit un jour dans un feuilleton américain, le suspense est très soutenable.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Tadej Pogacar va aller chercher le maillot jaune. Il va aller chercher aussi une 12e étape sur le Tour de France. Tadej Pogacar qui passe la ligne, qui lave les bras après la ligne et qui gagne cette étape.
Encore lui.
Le dernier virage, tourner à droite, lever les bras. Poggi is the winner aujourd'hui. Le vainqueur, c'est le maillot jaune. Il peut serrer les bras. Il est le meilleur.
Je vous préviens. Si je le revois encore dans les parages, il ne repartira pas vivant.
L'exploit encore une fois de Tadej Pogacar qui s'impose pour la deuxième journée de suite et qui vient assommer le tour, qui va mettre une minute d'avance à Jonas Vingegaard.
Encore, on commence à le connaître par cœur.
Il démarre, Tadej Pogacar, c'est un killer, c'est un tueur. Il va aller s'imposer la 5e victoire d'étape sans problème pour Tadej Pogacar.
Maman, il a recommencé.
Victoire de Tadej Pogacar qui lève les deux bras et qui salue la foule.
Vingegaard a définitivement perdu le Tour de France 2024, il faut bien le dire, et tout le monde l'a perdu, il n'y en a qu'un qui l'a remporté, c'est Tadej Pogacar.
Je vous demande de vous arrêter.
Mais ça continue encore et encore.
Et on retrouve en direct de Lille notre GG Jérôme Pinault. Salut Jérôme.
Salut les copains.
Salut Jérôme.
Salut Jérôme. Tout se passe bien pour ton retour sur le Tour de France, mon Jérôme? Tu es bien accueilli.
Écoute,
tu t'es battu avec personne encore?
Non. Je reste avec la team RMC. J'évite de trop me mélanger à certains. Donc, je suis très bien là et je prends un énorme plaisir d'être de retour sur ce magnifique événement et de cette course. J'en ai hâte qu'elle débute parce qu'il va y avoir quelques belles choses dès la première semaine, donc ça va être très cool.
Et nous, on est très heureux évidemment de te retrouver dans cette émission, et ce sera le cas évidemment durant le Tour de France. Alors c'est le grand départ aujourd'hui, ça va vous surprendre, mais il part de France cette année, de Lille précisément, une grande boucle qui, comme en 2021, 2022, 2023, 2024, va se jouer entre Tadej Pogacar et Jonas Vingegaard. 3-2 pour le Slovène avant ce nouveau départ. Pogacar étincelant toute l'année, vous le savez, on en a beaucoup parlé dans cette émission, et qui a déjà écœuré son rival il y a quelques semaines sur le critérium du Dauphiné. Alors la musique qui fout les jetons est cette question. Le Tour de France est-il joué d'avance? Oui ou non? Simon Dutin?
Non.
Fred Weiss?
Oui.
Ça m'aurait étonné que vous soyez d'accord les copains. Jérôme Pinault?
Mais évidemment que non.
Évidemment que non. Pascal Duprat?
Non.
Julien Beneteau?
Ben non, je suis, Je suis Jérôme, le connaisseur.
Ok, donc Fred ouais, alors, est tout seul.
Peut-être, parce que Jérôme n'y connaît pas tant que ça.
Et je vais reprendre un de ses arguments d'il y a quelques semaines.
Ok, avant de débattre, on va retrouver à Lille notre reporter Maria Zé. Bonjour Maria.
Salut JC, salut tout le monde. Salut,
je le disais tout de même, un constat, Pogacar a quand même un peu écœuré le peloton, non, depuis le début de la saison.
Ouais, et puis dans le public du Tour de France, je vais pas vous mentir, on est déjà un peu résigné.
Je pense que c'est plié.
Pogacar est largement au-dessus quand même. Pendant quelques années, ça va être compliqué. Ouais, malheureusement, il est très très fort.
Maintenant, on espère que jusqu'au bout, il y aura un peu de suspense. Voilà, que tout le monde croira à sa chance.
En même temps, difficile de ne pas imaginer Tadej Pogacar favori au vu de sa saison, hein, où il n'a rien laissé à ses adversaires. Ça a commencé sur les classiques avec une victoire sur l'Estrade Bianchi, puis sur le Tour des Flandres, la Flèche Wallonne et Liège-Bastogne-Liège. Seul Mathieu Van Der Poel a réussi à le concurrencer un peu, c'était sur Paris-Roubaix, Milan-San Remo. Dernier coup de grâce sur le Critérium du Dauphiné pour le Slovène il y a quelques semaines, où il remporte la première étape au sprint avant d'atomiser Jonas Vingegaard sur les étapes de montagne. Forcément, tout le monde le voit déjà grand favori pour une quatrième victoire sur le Tour de France, mais lui ne veut pas encore crier victoire trop vite.
Je ne pense pas que le Tour soit joué. Je signerai tout de suite pour que ça soit facile, mais rien n'est simple dans le cyclisme. Le Dauphiné ne révèle pas tout. Le Tour, c'est différent, c'est trois semaines. Là, c'était une préparation, donc attendons de voir ce qu'il se passe sur le Tour.
À côté, Jonas Vingegaard n'a presque pas couru depuis le mois de mars et sa commotion cérébrale, c'était sur Paris-Nice, excepté sur le Critérium du Dauphiné où il est arrivé très confiant, mais il a vite été refroidi par le Slovène. Mais en conférence de presse hier, Jonas Vingegaard était plutôt confiant.
Je suis plus fort que jamais et non, je n'ai pas peur de Tadej, sinon je ne serai pas au départ. Nous verrons si c'est suffisant.
Malgré les déclarations de Vingegaard, Bernard Hinault, le dernier vainqueur français du Tour de France, qui fête d'ailleurs les 40 ans d'anniversaire de sa victoire cette année, n'est pas plus optimiste.
Si on reprend ce qu'on a vu au Dauphiné, je pense que c'est déjà fait. Mais bon, personne n'est à l'abri. Hein.
Le plus confiant, c'est forcément le patron du Tour, Christian Prudhomme, qui conseille aux adversaires de Pogacar de ne pas trop attendre.
Bien sûr que Pogacar est le grand favori après sa démonstration au Dauphiné notamment, mais on ne sait jamais ce qui va se passer. La première semaine du Tour de France, qui est première semaine de plaine en trompe-l'œil, est une semaine où il peut y avoir beaucoup, beaucoup de pièges.
Et ça pourrait commencer dès demain parce que la deuxième étape du Tour et l'arrivée à Boulogne-sur-Mer promet des pourcentages très élevés. Alors on pourrait déjà voir les favoris lancer leurs premières attaques.
Merci beaucoup Maria Zé pour toutes ces précisions. On te retrouvera évidemment tout au long de la grande boucle. Le Tour de France est-il joué d'avance? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. Jérôme Pinon, on commence avec toi. Pourquoi non?
Non, parce que le Tour de France, c'est trois semaines, parce que on n'est jamais à l'abri de rien, parce que la météo peut être capricieuse, parce qu'on part dans le nord, parce qu'on va traverser des régions avec du vent, et parce que, en plus de cela, je pense que Jonas Vingegaard va mettre à profit sa force collective, notamment sur ces étapes-là qui viennent avec, depuis quelques jours, il va y avoir de la pluie, aujourd'hui certainement un peu, demain beaucoup, avec du vent, beaucoup de vent dans le nord, et le collectif Visma Liesebike, eh bien, il est construit autour de Vingegaard avec des gaz solides. Si un garçon comme Wout Van Aert se met à vouloir faire des bordures ici dans le nord, ben ça peut créer des cassures. Vingegaard a une très bonne équipe autour de lui. Alors Pogacar aussi, vous me direz. Mais Pogacar, il a tout à perdre sur ces étapes-là. Je pense que Visma Liesebike doit prendre la course à bras le corps dès le début de ce tour pour essayer de user, pour essayer de harceler Tadej Pogacar. Et puis derrière, pour moi, la progression de Vingegaard est encore à observer. C'est-à-dire que sur le Dauphiné, pour moi, il n'était absolument pas à 100%. Il a calculé ses coups de pédale, il a géré sa forme. Il est sur le retour, il sera frais dans la dernière semaine. On annonce des parcours terribles, peut-être le retour de la canicule sur la fin de ce Tour de France. Et à ce petit jeu, il faudra de la fraîcheur. Et de la fraîcheur, Vingegaard en a plus que Pogacar. Alors évidemment, pour l'instant, la marge, elle est énorme. Mais moi, je pense que Vingegaard progressant, son équipe faisant corps autour de lui, s'il y a un débat, s'il y a un écart qui se resserre, je pense, et là, je l'affirme, et je me mets beaucoup de monde à dos depuis quelques semaines, que Vingegaard est plus fort dans sa tête que Pogacar s'il revient tout près du Slovène. C'est mon avis. C'est pour ça que je dis que le tour est loin, très loin d'être joué.
Ok, parce que tu mets une piécette sur Vingegaard. Il trépigne
d'impatience. J'ai pas mis de piécette dessus. Je ne parie pas sur le sport.
Non, mais s'il pariait, il parierait sur Pogacar comme tout le monde, évidemment.
Évidemment.
Ok, il trépigne depuis tout à l'heure. Il veut te répondre.
J'ai plusieurs choses à mettre en opposition. Je me dis, quand Jérôme nous explique que le temps peut être favorable à Vingegaard, moi j'ai envie de dire c'est plutôt le contraire. Quand dans des conditions météorologiques négatives, mauvaises, quand il pleut, on sait que Pogacar est meilleur sur ça. Donc je comprends pas cet argument. Ensuite, 22 jours de course pour Pogacar actuellement, 11 victoires. Donc ça veut dire qu'il est plutôt très en forme lui aussi. Vingegaard, on m'a expliqué l'année dernière, oui, il revient pour le Tour de France, ça va être très difficile pour lui, etc. Pogacar a dominé, mais Vingegaard était pas bien. Ok. Au Dauphiné, lui, il a eu aussi des problèmes, mais on m'a expliqué que le Dauphiné, c'était le préambule du Tour de France. Qu'en gros, tu gagnais tout le Dauphiné, t'étais pas sûr de gagner le Tour de France,
non, mais
tu montrais des choses quand même hyper intéressantes. Bah, on a quand même vu que Pogacar dominait encore une fois. On me parle des deux équipes. Je suis désolé. L'équipe de Pogacar est d'une très, très, très bonne équipe, au moins au niveau de celle de Vingegaard. Donc, quand les deux coureurs sont
moins fortes dans la plaine.
Moins fortes dans la montagne, certainement, mais quand même une très bonne équipe qui va l'accompagner aussi. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On est en train d'expliquer, parce que Jérôme est un rêveur, parce que Jérôme a envie de vendre son produit, que Pogacar ne va pas forcément gagner. Pogacar va gagner comme il l'a fait à chaque fois parce que c'est un Eddy Merckx, c'est un cannibale, c'est quelqu'un qui va, dès les premières secondes de ce Tour de France, vouloir gagner des points, gagner des secondes, gagner du temps, et okay. À partir de là, eh ben, il va s'imposer à la fin comme d'habitude.
Ok, Fred, tu t'es mis tout le monde à dos, tout le monde veut te répondre. Pascal Duprat.
Ouais, en fait, Fred, ça fait longtemps que t'as pas souffert sur les parquets, que t'as pas souffert à l'entraînement, que tu te rappelles plus ce que c'est que dans le chier grave, alors que tu es sportif professionnel.
Bah, en fait, j'ai l'impression. Je connais beaucoup, Pascal, je
pense qu'il n'y a pas de thérapie.
J'ai l'impression.
Il n'y a pas montré la pédulation à vélo, Fred.
J'ai l'impression. Ça m'ennuie parce que j'ai l'impression que t'insultes le Tour de France quand tu dis que c'est joué d'avance. Alors, je sais que t'es quelqu'un de prévenant, t'es un bon type. T'as du punch, certes, mais tu déraisonnes pas. Or, ce matin, tu dérailles un peu. Donc, Pogacar, il a fait un Dauphiné monstrueux, d'accord, mais le Dauphiné.
Trois victoires en 8 étapes, c'est pas si mal que ça.
Non, mais tu l'as souligné, c'est pas le Tour de France. Le Tour de France, c'est 3 semaines. J'ai beaucoup aimé l'exposé de Jérôme. Je dirais une chose importante. Si la canicule revient à 7, le talon d'Achille de Pogacar, il ne faudra pas l'oublier. Si jamais dans les étapes de montagne, ça venait à taper fort le soleil. Il faut dire aussi que Vingegaard, l'année dernière, il a explosé seulement en dernière semaine, alors qu'il avait chuté au Pays Basque et qu'il se remettait doucement avant le départ du Tour de France d'une terrible chute et d'une terrible blessure. Donc la dernière semaine seulement pour abdiquer. Donc là, il est en pleine forme. Il a, peaufiné sa préparation. Son équipe, qui était déjà décimée avant le départ du Tour l'année dernière, est au complet. Une armada exceptionnelle en montagne. Donc, s'il te plaît, de grâce, Fred, retrouve la raison. Remets ton dérailleur.
J'aime votre côté rêveur, mais moi, ma question, c'est si tu devais parier, Pascal,
sur
Pogacar ou sur Vingegaard maintenant, là, à l'instant T.
Tu Vingegaard. Vingegaard.
Eh ben,
si j'ai 100 balles à perdre, je les parie sur Vingegaard pour gagner quoi?
Tu les as pas, Pascal, on va pas.
Je les ai pas.
Garde les 100 balles pour aller acheter des légumes frais, Pascal.
Exactement.
Pas besoin, je les cultive.
Après l'exposé de Pascal, c'est d'ailleurs pour ça que cette course, début juin, on l'appelle le critérium du peaufiné.
C'est l'ordre. C'est en roi.
Le 15 de France, juste un petit mot, parce que il y a un essai pour nos bleus qui répondent justement au Néo-Zélandais, Julien Richard.
Oui, les Bleus qui mènent 8-0 face à la Nouvelle-Zélande. On joue depuis un peu plus de 20 minutes dans cette première mi-temps, un peu moins de 20 minutes, 17 minutes de jeu. Et la transformation de Nolan Le Garec. 10 pour l'équipe de France, 0 pour les All Blacks. Les Blacks qui pensaient avoir marqué sur l'action précédente. Ils nous avaient fait une spéciale. Hein. La France domine ce début de rencontre, mais sur un ballon, ça s'est mis en canne très rapidement. Et Barrett est allé inscrire un essai, mais il y avait un en avant. Et derrière, sur l'action suivante, eh bien, les Bleus, c'est parti d'une mêlée dans leur moitié de terrain. Les cannes d'Ati Sogbé notamment et Mickaël Guillard à la conclusion de ce superbe essai. 10-0 pour les Bleus sur la pelouse des All Blacks après 18 minutes de jeu.
Oh, on envoie les remplaçants et qu'est-ce qu'on leur met aux Blacks?
C'est le premier test.
Gaëtan et Guillard, c'est pas des vrais remplaçants quand même.
Bah ouais, dans le 15 de France, si, quand même. Ouais, bon. 9h27, pardonnez-moi Simon et Julien, vous allez prendre la parole dans quelques instants. On a été un petit peu long. Le Tour de France. Oui, pendant la pub, et on passera les meilleurs extraits sur les réseaux sociaux. On se retrouve dans quelques instants. On reste évidemment sur le Tour de France. Est-il joué d'avance le 32-16? À tout de suite sur RMC.
T'es grand! T'es très grand! Allez, bon grand!
RMC, les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Tous les chemins mènent à Rome, dit le vieil adage français. Non, tous les chemins mènent à Paris.
Jean-Christophe Drouet.
Le Tour de France, évidemment, au programme des grandes gueules du sport ce matin avec Pascal Duprat, Jérôme Pinault, Julien Beneteau, Fred Weiss, Simon Dutin. Sachez qu'à partir de 10h, on parlera du Paris Saint-Germain qui affronte le Bayern Munich cet après-midi. L'enjeu est-il grand? C'est un quart de finale. Ce sera à 18h à suivre en direct en intégralité sur RMC. Mais restons un instant sur ce Tour de France. Est-il joué d'avance? C'est notre première question dans les GG du sport ce matin. Un détour par la Nouvelle-Zélande car les All Blacks sont en train de revenir. Julien Richard.
Oui, la réponse quasiment sur l'action suivante après l'essai français, l'essai de Will Jordan pour la Nouvelle-Zélande transformé par Boden Barrett. 10 pour l'équipe de France, 7 pour la Nouvelle-Zélande. 23 minutes de jeu à Dunedin.
Ouais, c'est en train de pousser là, évidemment. On va suivre ce match avec intérêt et avec toi Julien Richard sur RMC. Alors ce Tour de France est-il joué d'avance? Julien Beneteau, Simon Dutin, vous n'avez pas encore pris la parole. Julien.
Alors moi j'ai dit non parce que c'est le Tour de France et que je me souviens ce qu'a dit Jérôme il y a quelques semaines à la fin du Critérium sur notamment l'état de forme de Vingegaard en disant qu'il pensait que Vingegaard allait encore monter en puissance par rapport au début de saison qu'il avait par rapport à Pogacar qui a beaucoup couru. Donc déjà ça c'est une des raisons pour lesquelles
il a pas fait le Giro cette année. Oui. Donc, il va être encore plus frais quand même.
Une des raisons pour lesquelles je dis que c'est pas joué d'avance. Et puis aussi parce qu'il y a cette première semaine qui est un petit peu différente. Mais en fait, pour pas que ce soit joué d'avance, je rejoins ce qui a été dit. Il faut que l'équipe de Vingegaard, elle attende pas la première étape de montagne. En disant et à faire ce qui s'est passé sur le Dauphiné ou l'année dernière sur certaines étapes de montagne dans le Tour de France, à attendre, à mettre Van Aert qui roule dans la plaine et qui fait le début d'école, à avoir un ou deux lieutenants qui prennent les relais, et puis au bout d'un moment, bah en fait, ça use pas trop Pogacar que ça, et c'est Pogacar qui contre et qui met une pilule à tout le monde. Donc la tactique et le déroulé de cette première semaine va être hyper importante.
Sachant que Pogacar a annoncé lui-même que lui aussi, dès le début, va être bien
concentré. Moi, je pense que
c'est l'erreur qu'il ne doit pas faire, par contre.
Moi, c'est ce que je dis.
Ça, c'est l'erreur qu'il ne doit absolument pas faire, Pogacar.
Mais par contre, je dis non, il n'est pas joué. Mais je pense que lundi prochain, le 14 juillet, à la fin de la première grande étape de montagne dans le Massif central, je pense que ce sera plié.
Ah oui, d'accord. Ok, et ce sera plié pour...
Pour Pogacar.
Et là, donc pour résumer, il est
d'accord. Aujourd'hui, avant le départ, je dis, c'est pas joué d'avance.
Parce que
dans 8 jours, je pense que malheureusement, non, parce que tant mieux pour Pogacar, il est tellement plus fort. Et là, après, il faudra pas me parler. Ah oui, mais attends, il reste 2 semaines de course, il y a la canicule, s'il a 3 minutes d'avance et tout, hors du mécanique, ce sera terminé.
Tu sais quoi, on va faire plus simple, je pense qu'il y a dans le camp de Fred Weiss. Oui,
il y a quelque chose.
Jérôme, j'arrive dans quelques instants, juste Simon Dutin n'a pas pris la parole.
Bah évidemment qu'il n'est pas joué ce Tour de France, considéré qu'un Tour de France est joué. Alors si on met entre parenthèses les vilaines années Armstrong, ça témoigne d'une grande méconnaissance, j'ai envie de dire d'un manque de respect pour ce qui est un peu plus qu'un événement sportif. Le Tour de France, c'est une allégorie du labeur, du travail, du courage. C'est un peu plus que des mecs qui pédalent sur un vélo. En 2023, quand Vingegaard gagne, c'est Pogacar qui est favori. en 2022. Personne ne s'attend à ce que la Visma mette le bazar dans le col du Granon et fasse exploser Pogacar. Et pourtant, on a assisté à des exploits. Alors oui, Pogacar, il est ultra favori. Oui, il attaque sur tous les terrains. Oui, il a des équipiers qui seraient leaders partout. Mais Vingegaard, c'est pareil. Dans la Visma, il y a trois vainqueurs.
Vas-y, vas-y.
Je suis un peu pris par l'émotion, j'arrive pas à finir ma phrase. Je vais terminer. Quand même, qui aurait imaginé que Vingegaard écrase le contre-la-montre à Combloux en 2023? Personne. On voyait Pogacar gagner.
Oui, mais Vingegaard 2023, aujourd'hui, et Pogacar 2025.
Mais par rapport à Pogacar 2023, de Pogacar, on a l'impression que les deux équipes s'équilibrent un petit peu. Alors Jérôme peut peut-être me dire le contraire. Alors effectivement, peut-être Vingegaard un petit peu meilleur sur la montagne, mais dans son équipe, je veux dire. Mais on a l'impression que les deux équipes sont à peu près proches et que d'un côté, on a un sur dominateur de ce sport qui est Pogacar et Vingegaard qui est en très grande forme et qui peut l'embêter mais qui peut pas lui piquer le
bain. Là où je te rejoins Fred, c'est souvent on avance cet argument et Jérôme je te lance, on avance l'argument de dire mais la Jumbo c'est une meilleure équipe, mais je trouve que vraiment depuis quelques années c'est plus le cas.
Non mais sur les différents terrains, il faut parler du Tour de France, il faut le découper ce Tour de France, il faut y aller étape par étape, semaine après semaine. Moi, je vous parle de la supériorité des Visma Lease Bike sur un terrain qui va être celui des 10 premiers jours. S'il y a du vent, s'il y a des opportunités de bordure, il a des coureurs beaucoup plus costauds et affranchis dans ce genre d'exercice, tel Wout van Aert, Eduardo Affini, Tish Benoot. Ce sont des coureurs qui aiment le Nord, qui aiment les classiques, qui aiment le vent. Et s'il y a du vent, dans cette équipe-là, il y a plus de garçons capables d'assumer, de faire des éventails, de faire des bordures, de faire péter le peloton que dans l'équipe UAE. Par contre, si on est à 0-0 dans la haute montagne, il faudra avoir un Vingegaard à son best. Mais moi, je tiens aussi à dire, et je complète ce que dit formidablement bien Simon, c'est le meilleur des deux lorsqu'ils sont à leur top sur un grand tour. Pogacar ne s'en cache pas, il l'a toujours dit, sur les longues ascensions, Vingegaard est supérieur à Pogacar. Maintenant, moi, quand je dis que le tour n'est pas joué, parce que je pense que Pogacar va retrouver, que Vingegaard va retrouver son meilleur niveau sur ce tour. Et s'il retrouve son meilleur niveau, c'est le seul coureur sur la planète qui peut éventuellement jouer avec Pogacar. Et les deux fois où ils se sont trouvés au départ, avec la même forme, eh bien c'est Vingegaard qui l'a emporté.
Pascal.
Oui, on a oublié aussi une dimension apparue nouvelle chez Pogacar, c'est son côté vaniteux. Depuis quelque temps, il est impétueux et ça peut-être sur les trois semaines lui jouer des tours.
Il va peut-être faire avec des cigales derrière pour nous narguer.
Il va peut-être faire l'attaque de trop, peut-être l'erreur tactique.
C'est la première semaine, Pascal, qui peut le piéger, Pogacar.
Donc il faut quand même
tout la première semaine, il peut se faire piéger.
Ben, il a envie, apparemment, d'après ce qu'il dit, il veut tout faire. Il veut cannibaliser, comme quelqu'un l'a dit parmi vous. Et attention, Vingegaard, c'est pas un enfant de cœur. Il a déjà gagné deux fois le Tour de France. Simon l'a très bien dit, l'a répété, même s'il était ému, certainement parce que Gisset va s'arrêter. Donc, d'accord, mais malgré tout, on doit considérer que c'est pas joué d'avance. Impossible de le dire aujourd'hui.
Jérôme, juste pourquoi tu nous dis que Pogacar ne doit pas essayer d'écraser le Tour sur la première semaine?
Mais parce que ce serait laisser des cartouches pour pas grand chose et que toutes les cartouches qu'il doit laisser. Alors j'entends toujours, c'est une cartouche en solo parce que demain sur un terrain comme l'étape de Boulogne avec 2500 mètres de dénivelé positif s'offre pour lui l'opportunité de faire un solo, de encore une fois faire un numéro. Mais on n'est pas sur une classique, on n'est pas sur une course d'une semaine. Il va falloir aussi calculer. Son grand danger, c'est de croire que ça va être facile. Le grand danger pour Pogacar, c'est de rester sur sa dynamique du début de saison. On a quand même la chance, Simon, tu dois avoir les stats certainement. Je ne sais pas depuis combien de temps on n'a pas eu deux vainqueurs d'au moins deux tours au départ avec cette incertitude. C'est-à-dire que Vingegaard, comme l'a dit Pascal, c'est pas un lapin de trois semaines. Il a déjà gagné deux tours. Alors oui, il a eu des soucis l'an dernier. Il est revenu après une longue chute. Mais là, l'année dernière, il a couru après le temps. Là, il s'est donné le temps d'être prêt. C'est complètement différent. Et moi, je pense, grâce à son équipe, Et vous savez comme je les aime dans cette équipe, avec tous ces sages, ces savants, ces ingénieurs du data, ils ont dû certainement calculer l'état de forme, calculer le nombre de watts qu'il fallait mettre au Dauphiné pour se préparer. Mais autour, Vingegaard, conférence de presse hier, Maria pourra nous le confirmer, il dit « Je ne me suis jamais senti aussi fort ».
Ouais, mais Jérôme,
il dirait
ça,
pas
c'est ça. Ça, c'est de la com.
Mais
ça,
non, Jérôme, Fred, on parle de Vingegaard, il vendait du poisson il y a 10 ans au Danemark. Le mec, la com, il en fait pas.
Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas expliquer qu'un sportif de ce niveau-là puisse dire « Je suis pas en forme et il va gagner ». C'est pas possible. À un moment, tu es obligé
de
dire
«
Je suis dans la meilleure forme possible et je vais lui mettre la pression. » Et je vais lui mettre la pression dès la première seconde.
Non, Fred, s'il dit quelque chose, s'il est pas sûr de ses canettes et d'être au top niveau, il dit rien. Il dit « Je reviens, Pogacar est un monstre et je vais essayer de trouver un plan pour le battre ». Là, il dit clairement « J'ai pas peur de lui et je suis plus fort que j'ai jamais été ».
Il dit aussi « Si je perds cette année, ça ne veut pas dire que je ne gagnerai pas d'autre ». Il a aussi dit ça, en fait.
Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a un qui calcule, c'est plus Pogacar, plus Vingegaard, il y en a un qui calcule jamais, c'est Tadej Pogacar. Simon Dutin.
Et le dernier élément, avant que Simon prenne la parole, c'est le contre-la-montre du Dauphiné. Il y a une épreuve où ils se sont donnés à 100% les deux, parce que sur un chrono, on fait des vrais tests pour savoir où on en est. Et sur le Dauphiné libéré, qui est-ce qui est sorti vainqueur des deux? C'est Vingegaard.
Ouais, c'est surtout ces deux champions qui se nourrissent l'un de l'autre, qui ont un ego forcément, on comprend, surdimensionné, et qui nourrissent leur ambition en voyant l'autre gagner. Je le répète, en 2022, en 2023, à chaque fois c'est Pogacar qui est favori et c'est Vingegaard qui tire les marrons du feu. Alors collectivement, en 2022, parce que dans le Granon, pour une fois, ça fait 20 ans qu'on attendait ça, on se dit, voilà, une grosse équipe qui se met au service de son leader, ils ont fait exploser la course en mille morceaux. En 2023, le contre-la-montre à Combloux, tout le monde voit Pogacar favori et c'est Vingegaard qui fait, alors qu'il avait déjà le maillot jaune, qui fait une performance absolument ahurissante. L'an dernier, on se dit, ah, Vingegaard, il va être dur à battre, Pogacar qui revient, il veut sa revanche, mais est-ce que Vingegaard, avec la Visma, n'est pas quand même largement au-dessus? Et finalement, c'est Pogacar. Mais là, je demande à Fred qui voit le tour déjà joué, qui aurait pu prévoir la défaillance de Pogacar dans le col de la Loz. Il prend entre 5 et 6 minutes, il ressemble à un sprinter en perdition dans un col. Tu ne sais pas ce qui peut se passer avec, les conditions atmosphériques, les conditions météo, la chaleur, mais très bien. Mais
l'année dernière, il a enchaîné le Giro et le Tour de France.
Les années se suivent.
Vous avez dit, il sera fatigué.
Les années se suivent et ne se ressemblent pas.
Et à la fin, il a massacré tout le monde comme d'habitude.
La fringale, la fatigue, le coup de moins bien, Pogacar, justement, après la défense au col de la Loz, c'est la pire montée que j'ai affrontée de. T'es pas à l'abri que ça se passe pas bien avec son Gregario Almeida qui serait leader dans n'importe quelle équipe du monde et qui va viser.
Ah oui, je te confirme, il serait même l'un des trois favoris du tour.
Exactement, qui peut viser le podium. Pogacar, s'il voit Almeida qui court pas comme il veut ou qui fait pas les efforts comme il les veut, ça peut mal se mettre. Bernard Hinault en 84, personne ne voyait perdre le Tour de France, c'est Fignon qui gagne. Fignon ultra favori en 89, personne ne voyait le jeune Greg LeMond gagner le Tour de France. Indurain, personne ne le voyait chuter, je sais plus si c'est en 96, 97. Roglic en 2020, personne ne le voyait chuter, et pourtant il y a un nouveau Slovène qui arrive qui le bat. Des surprises, il y en a. L'histoire du Tour de France est nourrie de surprises et de pronostics déjoués.
Et puis c'est surtout qu'on ne peut pas prédire sur une course de 3 semaines, sur un événement sportif, quoi qu'il soit. Sur 3 semaines, il y a des hauts, il y a des bas. On le sait qu'un coureur aura forcément, même les grands champions,
mais quand
un jour
sans. Si un coureur cycliste est sûr
de gagner une course de 3 semaines dès le départ, c'est pas bon signe quand même.
Okay,
et moi, je te dis que le vélo, aujourd'hui, le tour, c'est pas possible de prédire que le mec, il va dominer du début à la fin. Ça n'est pas possible.
Eh ben, tu sais quoi, Jérôme, ça nous rassure parce qu'on a envie, évidemment, d'avoir du suspense et de vivre 3 semaines de folie sur RMC autour de Christophe Cessieu à partir de 14h.
Nous, on va vivre 3 semaines de folie,
c'est
sûr.
Oui, mais on parlait sur la course, nous. Jérôme, au 32-16, nous appelle. Salut Jérôme, il nous attend depuis 15 minutes. Merci d'être avec nous, Jérôme.
Salut, GG.
Bon, c'est joué d'avance ou pas?
Bon, déjà, avant de commencer, je tiens à te dire bon vent, JC, et merci pour toutes ces années que tu nous as apportées. Tu vas nous manquer.
Bah, merci beaucoup, mon cher Jérôme. Toi aussi, tu vas me manquer, personnellement.
Donc pour revenir un petit peu sur le débat, en fait, je vais venir plus ou moins au secours de Fred Weiss, une fois n'est pas coutume, mais en fait, je pense qu'il est joué d'avance entre Vingegaard et Pogacar. Ça, c'est une réalité, ça va être les deux qui vont vraiment se tirer la bourre. C'est là où, pour moi, le Tour de France, il est plus ou moins biaisé, dans le sens où on sait pas, on sait qu'il n'y en a pas derrière qui vont être capables de rivaliser avec eux. Après, Jérôme, quand tu parlais de, du Nord et des coups de bordure et tout ça, faut pas oublier que dans son équipe, Tadej, il a quand même Polit, Wellens, Almeida, c'est des mecs qui savent rouler, c'est des mecs qui savent prendre du vent, donc il y aura match. Il y a deux équipes qui sont incontestablement les plus fortes du peloton. Donc forcément, ça va être entre la Visma et entre UAE. Après, effectivement, vous l'avez très bien évoqué, il y a plein de faits de course, il y a la chaleur, il y a le coup de fringale, il y a tout ça. Mais moi, je pense que si tout se passe bien, que les deux équipes font le travail jusqu'au bout, je vois pas comment, même si Vingegaard a une top préparation, il s'est beaucoup entraîné en France, on l'a vu. Moi qui le suis beaucoup sur les réseaux, je suis un grand fan de la Visma. Il est au top, je suis d'accord. Mais je pense que Pogacar, c'est quand même, enfin c'est fou ce qu'il fait. C'est fou ce qu'il fait. Et avec l'équipe qu'il a, ah, ça va être compliqué quand même de le concurrencer. Moi, je pense que ça va être très compliqué.
Top, Jérôme, c'est terminé. On va arrêter sur ce débat. Merci d'avoir été avec nous, mon cher Jérôme. On te retrouve à partir de 14h pour l'intégral tour avec Christophe Cessieux. Merci de nous avoir apporté ton savoir et tes lumières, évidemment, sur le Tour de France. On va te retrouver pendant 3 semaines, mon cher Jérôme. Je t'embrasse, mon cher Jérôme. Et merci d'avoir été avec nous. Et merci à notre auditeur, Jérôme, d'avoir été avec nous. Et merci de ta fidélité. On se retrouve dans quelques instants, 9h47. C'est bientôt la pause. Entre la Nouvelle-Zélande et la France, la Nouvelle-Zélande mène d'un point. On retrouvera Julien Richard dans quelques instants. À tout de suite.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Avec Simon Dutant, Fred Veil, Julien Beneteau, Pascal Duprat, on vous parle du Paris Saint-Germain à partir de 10h. Mais un point tout de suite en Nouvelle-Zélande. Ça y est, les Blacks qui sont en train de faire le trou, Julien Richard.
Ils accélèrent. C'est la mi-temps, JC. 21-13 pour les All Blacks qui viennent d'inscrire un troisième essai dans cette première période. Jordi Barrett, à la conclusion, ils ont appuyé là où ça faisait mal, hein, avec leur combinaison une nouvelle fois. Les Français qui avaient bien entamé la période, la rencontre, hein, ils menaient 10-0, mais derrière, les Blacks se sont repris, des Français beaucoup plus indisciplinés aussi, et derrière, ben, la vitesse et l'expérience de ces All Blacks avec Jordi Barrett. Donc troisième essai, 21-13, c'est la mi-temps.
Merci, on te retrouve tout à l'heure pour la seconde période, évidemment. Allez, tout de suite, on s'en fout pas.
RMC,
le zapping des grandes gueules du sport.
Plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine, de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première à vous donner, c'est les Parisiens qui peuvent enfin se baigner dans la Seine. Enfin, tout le monde, hein, faut pas juste être Parisien, évidemment. On s'en fout pas. Simon Dutin.
Je laisse.
Ok.
J'adore l'idée.
Ok, Fred Weiss, Pascal Duprat.
Je m'en fous.
Ok, Julien Beneteau.
Il a une piscine, lui, chez lui, il s'en fout. Non, moi, je m'en fous pas.
J'irai me baigner dans la Seine devant témoins pour prouver qu'elle est redevenue propre. Cette déclaration historique de Jacques Chirac, c'était en novembre 88 lors de sa campagne pour la mairie de Paris, bien est restée lettre morte, hein, pendant 4 décennies. 4 décennies plus tard, donc, la promesse devient réalité, portée évidemment par l'élan des Jeux Olympiques. C'est l'un des héritages des JO. Eh bien, ce projet ambitieux voit enfin le jour ce samedi. 3 sites ont ouvert ce matin, Bercy, Grenelle et le Bras-Marie. On va retrouver justement notre envoyé spécial au Bras-Marie, c'est Mathéo Rollet. Salut Mathéo.
Salut JC, salut à tous.
On me dit que tu as les pieds dans l'eau, t'as pas encore les pieds palmés.
Non, pas les pieds palmés, mais bien les pieds dans l'eau. Là, je suis sur les marches. Elle est très, très bonne, cette eau. 25 degrés. Elle est bien meilleure qu'en fait la température extérieure aujourd'hui, parce qu'il fait pas très chaud à Paris, hein. Je suis arrivé ce matin, il faisait à peine 16 degrés. Et les premiers nageurs parisiens se sont mis à l'eau finalement autour de 8 heures du matin. Assez courageux. Et puis là, bah, ils profitent un petit peu tous. Ça nage, ça discute. Voilà. La zone de baignade au Bras-Marie est pas très grande. C'est la plus petite des trois. Elle fait 70 mètres de long, 6-7 mètres de large à peu près, mais en tout cas les Parisiens profitent de ces premiers instants dans la Seine. Tout le monde dit qu'elle est propre, qu'on s'y sent bien. Il y a eu quelques passages des officiels avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, et la ministre des Sports Marie Barsac qui ont mis une petite gourde dans la Seine juste pour prouver qu'elle était bien translucide et bien propre. Voilà ce qui se passe depuis ce matin, c'est assez bon enfant finalement. On y voit des douches, des maillots de bain, des drapeaux comme à la plage, vert, orange, rouge. Bon, aujourd'hui il est vert, je vous rassure. Donc en fait, se baigner dans la Seine, c'est comme un petit peu le mi-chemin entre la piscine municipale et les plages que l'on connaît tous.
Bon, bah c'est parfait. Merci beaucoup Mathéo Rollet et profite bien donc de cette journée sur RMC pour nous compter évidemment ces baignades dans la Seine. Rapidement, Fred Weiss.
Bon, non, je trouve ça très cool, mais après, si on parle d'héritage, c'est pas forcément l'héritage que j'attendais des Jeux 2024. Je m'attendais à plus d'argent pour le sport, etc. Si on peut se baigner dans la Seine, c'est cool, mais c'est pas forcément plus
d'héritage.
Ouais. Ok. Bon, en tout cas, pour tous ceux qui n'ont pas la chance, d'aller à la piscine, qui n'ont peut-être pas les moyens, exactement. Je vais avoir le temps cet été, et qui ne peuvent pas aller à la mer, et ben voilà, c'est une solution aussi très bien pour les Parisiens et tous ceux qui habitent dans cette grande couronne pour aller se baigner dans la Seine. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est Paul Pogba qui s'amuse sur l'équipe de France. On s'en fout pas. Simon Dutin.
Il s'amuse.
Oui, qui s'amuse. Oui, tu vas voir pourquoi il s'amuse.
Alors je m'en fous pas.
Ah, finalement, tu t'en fous pas.
Non, ça t'intéresse. Je veux savoir.
Je m'en fous pas.
Ok, Pascal Duprat.
Je m'en fous pas.
Julien Beneteau.
Je suis curieux de voir comment il s'amuse.
Alors, il est présent. Il a été présenté, vous le savez, ce jeudi à l'AS Monaco où il a signé pendant ce mercato estival. Et Paul Pogba s'est fendu d'une petite plaisanterie sur un éventuel retour en équipe de France. Le milieu de 32 ans, évidemment, ne veut pas griller les étapes, mais il rêve toujours de la Coupe du Monde 2026. Jeudi, on a demandé à Paul Pogba s'il s'attendait à une convocation de Didier Deschamps. Et voilà pourquoi il s'amuse.
Oui, bien sûr, je l'ai eu au téléphone, il m'a dit c'est bon, t'as signé à Monaco, tu peux revenir quand tu veux. Non, je rigole. Ça, c'est le souhait de tout joueur de foot, je pense français. Il y a des places à gagner, il faut les mériter. Ça va être à moi aussi d'être performant et de mériter ma place. Il y a des étapes. La première étape, c'est moi, revenir sur les terrains. Jouer pour mon équipe, je peux pas aller en équipe de France sans jouer, sans être performant avec mon club. C'est ça la première étape et après, on va voir.
On ne sait pas rouler par terre non plus, évidemment, Simon, mais c'est, ah. c'est petite phrase sympa de Paul Pogba.
Oui, non, mais tu me rassures, moi j'avais suivi l'actu. Oui, il vise l'équipe de France, voilà, par cette petite pirouette. Et en effet, bon, moi j'ai eu l'occasion de dire que si les blessures, et notamment musculaires, le laissent tranquille, s'il y a une chance, même infime, qu'on retrouve le prime Pogba, et notamment celui qu'on a vu en bleu, qui se rêve pas en meneur de jeu, en buteur, passeur, dribbleur, créateur... Voilà, mais qui est un stabilisateur, un mec qui rassure ses copains et qui peut casser le milieu de terrain adverse par sa conduite de balle ou une passe. Moi, je ne demande que ça parce que malheureusement, on s'étouffe pas avec les joueurs de son talent et de son profil au milieu de terrain en bleu ces dernières années. Donc, si par miracle, on pouvait retrouver le prime Pogba, moi, je serais ravi, évidemment, de le revoir en bleu.
Pascal.
Cela dit, quand il dit en rigolant « Oui, j'ai reçu un appel de Didier Deschamps », je ne sais pas si Didier Deschamps l'a appelé, mais on connaît sa fidélité à Didier Deschamps. Il sait compter sur ses hommes et il leur fait confiance. Dans sa tête, il doit se dire « Si Pogba, il redevient performant, il sera sélectionné à coup sûr en équipe de France
ouais. ». Ok.
Attention.
Julien, tu veux prendre la main.
Son retour.
Ouais, bah, je suis d'accord avec ce que dit Pascal. Quand on voit comment Didier Deschamps gère, et on l'a vu avec N'Golo Kanté qu'il a rappelé, il habite à côté de Monaco, Didier Deschamps et Pogba jouent à Monaco, je pense qu'ils se sont parlé, c'est sûr. Et maintenant, comme l'a dit Pogba, il y a beaucoup d'étapes. D'abord, son intégrité physique, ensuite, son niveau de jeu.
Mais son discours est sympa. Son discours est sympa, c'est qu'il est encore motivé.
Exactement. C'est un vrai objectif pour lui, pour Pogba. Et il fait un vrai choix sportif. Comme un certain joueur de basket dont ce sera la contre-attaque plus tard, il fait un vrai choix sportif pour essayer de retrouver l'équipe de France. Donc ça, j'aime bien aussi cette idée-là.
Tu serais pas en train de faire du teasing, là ?
Je fais une Marion Bartoli. Je tease pas ma propre émission,
mais ta propre contre-attaque. Voilà, parfait. Eh bien, ce sera dans quelques minutes, justement, vous nous direz quel débat vous avez envie de faire dans cette émission. Et puis, sachez qu'à partir de 10h, restez bien avec nous. PSG Bayern Munich, c'est le quart de finale de la Coupe du Monde des Clubs cet après-midi. L'enjeu est-il grand ? Ce sera le bras de fer des GG. Restez bien avec nous. Encore beaucoup de choses pour s'amuser, pour jouer avec l'actualité. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.